On les appelle les migrants. C'est à eux qu'on va s'intéresser dans l'échappée belge aujourd'hui. Julien Knepfler, un sujet d'actualité. Le sujet a évidemment plusieurs raisons de nous intéresser. À commencer peut-être par l'hébergement des requérants d'asile avec la problématique du centre de requérants de Boudry qui fait régulièrement la une de l'actualité. Cette question de l'hébergement des requérants d'asile, des migrants, elle fait aussi débat en Belgique.
Clairement, oui. D'ailleurs, elle fait même débat, je crois pouvoir le dire, de manière nettement plus forte qu'à Neuchâtel. Je ne veux pas minimiser la problématique neuchâteloise, mais dans le cadre de la politique belge, c'est un problème autrement plus pointu.
Donc, il y a une crise de l'accueil en Belgique.
Oui, et ça prend une forme qui est bien plus vive que quelques requérants qui se comporteraient mal, qui s'apparderaient des biens ou endommageraient des clôtures. Dans le cas de Bruxelles, on a véritablement une sorte de village de tentes qui s'est créé en plein centre-ville, à côté du canal. On y trouve surtout des hommes qui sont refoulés des places d'accueil existantes. Et c'est une crise qui devient véritablement structurelle actuellement.
Mais une crise qui ne date pas d'hier. Hein.
En fait, c'est la résurgence d'un phénomène qu'on avait cru terminer avec le pic de 2015-2016. C'est une crise que toute l'Europe a connue. Là, on avait véritablement des kilomètres carrés qui étaient transformés en camping sauvage façon camp de réfugiés tel qu'on les voit à la télévision. On a cru que c'était terminé, mais là, ça reprend actuellement.
Et ça reprend à cause de la guerre en Ukraine ?
Alors, votre question est pertinente en ce sens qu'il y a eu effectivement beaucoup de migrants, à peu près 65 000 individus en Belgique. Je précise par comparaison qu'il y en avait à peu près autant qui sont arrivés en Suisse, 80 000 peut-être en Suisse. Mais en fait, non, c'est pas ça la cause, ou très à la marge, parce que vous savez peut-être que ces requérants ukrainiens ont bénéficié, tant en Belgique qu'en Suisse, de statuts et de procédures privilégiées. Donc c'est pas tellement eux qui sont venus grossir les effectifs de ces personnes qui y attendent, c'est plus un effet de report lié au Covid, notamment, qui fait que plein de personnes qui n'avaient pas tenté leur chance pendant tous ces mois, le font maintenant.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Il y a plein d'autres motifs. La Belgique est un pays qui a une bonne réputation à l'échelle planétaire, une terre riche où on vit bien, qui a une tradition aussi d'accueil avec beaucoup de communautés, notamment italiennes, marocaines, turques, qui se sont installées là. C'est aussi une terre de transit vers la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves. Donc il y a là un peu un effet de congestion qui est lié à cette route au-delà de la Belgique. Et puis enfin, il est clair que la Belgique n'est qu'un des reflets de la politique européenne qui connaît un grave dysfonctionnement, on le sait bien, ce qu'on appelle le système dit de Dublin, qui est un peu en fin de course et qui doit absolument être repensé, mais en attendant, ça crée ce genre de scène, quoi.
Alors, ce règlement Dublin, l'idée, c'est que c'est le pays dans lequel le requérant aura pénétré sur le sol européen en premier qui en est en charge. On peut simplifier les choses comme ça ?
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un système qui a été institué en 1995. Le principe, c'est exactement celui-là. L'état d'enregistrement est ensuite seul responsable de la conduite de la procédure et de l'hébergement. L'idée, c'est de n'avoir qu'un seul état qui est désigné pour mener cette tâche. En soi, la philosophie est défendable, mais ce dispositif a très vite montré ses limites. Il a suffi de quelques années pour que les pays, assez logiquement, les pays situés en première ligne à l'est de l'Europe, la Grèce, l'Italie, Malte ou au sud, crient finalement au déséquilibre et à l'arnaque, je serais tenté de dire, du fait de flux considérables qui affluent à leurs portes, dont ils devaient ensuite s'occuper intégralement.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat.
Dans les années 2015-2016, cette fameuse crise que j'évoquais tout à l'heure, on a tenté d'arriver à un système de quotas, mais ça n'a pas abouti. Et donc, maintenant, on est dans une situation de blocage où certains pays, Italie, Grèce en tête, refusent tout simplement de jouer le jeu. Donc on a une Europe qui se transforme en flipper géant, l'image est sinistre évidemment, mais où les gens sont renvoyés en fait d'un pays à l'autre, comme d'une sorte de préau d'école où on passe son temps à se courir après à travers l'Europe.
Alors, Julien, vous êtes juriste. Ce règlement Dublin, il va être modifié parce qu'on voit bien qu'il n'est pas tenable. Il y a des chances de le voir évoluer ces prochains temps.
L'ouvrage est sur le métier, comme on dit. Depuis septembre 2020, la Commission européenne a présenté son nouveau pacte sur la migration et l'asile, qui vise justement à trouver un délicat équilibre entre ces différentes conceptions, ces différents intérêts des pays européens. La Belgique réapparaît dans ce débat, non pas seulement en tant que siège de la Commission ou du Conseil européen, mais parce que vous savez que le Conseil européen est présidé par des pays par tournus, et il y a un accord qui a été passé entre 5 pays, la France, la République tchèque, la Suède, l'Espagne et la Belgique, enfin, pour, dans leurs différentes phases de présidence tournante, entre janvier 2022 et juin 2024, donc juste pour les élections européennes, essayer de faire avancer ce dossier. C'est tout sauf gagné, mais il y a une volonté, au travers de ce passage de témoin, de réussir quelque chose.
Alors Julien, on a parlé du terrain, des problèmes d'hébergement, on a parlé de l'Europe, mais si on en revient peut-être au niveau de nos deux pays, au niveau des législations nationales, entre la Suisse et la Belgique, des points communs, des différences ?
Alors c'est vrai qu'il y a une histoire qui est commune à l'ensemble de l'Europe, avec une première phase historiquement depuis la guerre jusqu'à 1970, 75 à peu près, où on a une ouverture très claire. La Belgique, c'était pour les mines, hein, pour faire venir des populations marocaines, italiennes, turques, pour faire tourner la sidérurgie. En Suisse, c'était pour les barrages et pour les tunnels. Donc là, on est dans une période où on accueille massivement, on ne fait pas de distinction entre réfugiés, politiques, migrants économiques, tout le monde est plus ou moins bienvenu. Et puis alors, à compter de 1974, dans les deux pays, on assiste à un resserrement, une crispation. Et puis on a deux politiques un peu schizophréniques. D'une part, l'intégration des personnes déjà présentes, puis d'autre part, la fermeture à l'égard des personnes souhaitant s'installer. Et c'est là qu'on commence, par exemple, à enfermer des étrangers aux fins de les expulser.
Et puis en Suisse, cette deuxième période, elle est tristement rentrée dans l'histoire, hein, avec les fameuses initiatives Schwarzenbach.
Oui, du nom du président de l'Action nationale contre l'emprise étrangère, du peuple et de la patrie, je cite, tout un programme. Donc ça a marqué un véritable virage. On cite ici la Suisse, mais on a le même phénomène vraiment aux mêmes années dans le contexte belge. Et puis alors, on a une troisième phase qui va de 95 à nos jours, qui est marquée là par cette politique européenne que je viens de citer, mais qui, au-delà de ça, se caractérise par un net durcissement des conditions d'immigration.
J'aurais ma chance, j'aurais mes droits, et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce que tu mérites est à toi, ici les autres imposent leur loi. Je te perdrai peut-être là-bas, je me perds si je reste là.
En Suisse, on a dû voter régulièrement sur des réformes du droit d'asile, avec des réformes de plus en plus dures.
Au niveau des autorités, on ne met pas en avant cette dureté, on parle plutôt d'une accélération des procédures, d'une réorganisation des centres d'accueil. Derrière, il y a un discours aussi de gestion, d'économie financière. Mais donc en 2019, effectivement, en Suisse, on s'est donné un nouveau droit d'asile qui repose sur trois grandes procédures. Procédure Dublin, procédure accélérée et puis, quand il le faut, une procédure d'asile étendue. Donc cette réorganisation a conduit à ce qu'il n'y ait plus que 6 centres fédéraux qui sont dotés de la compétence de mener des tâches procédurales, comme on dit. Et vous le savez, on revient au début de notre propos, Boudry est le seul centre roman avec ses tâches procédurales.
Ça, c'est pour la Suisse, avec toutes les critiques qu'on entend régulièrement d'un côté et de l'autre sur ce système. En Belgique, ça marche comment actuellement ?
En comparaison avec la Suisse, ça marche plutôt nettement moins bien, parce que là aussi, on a une hausse des chiffres, on l'évoquait tout à l'heure. Et face à ça, on constate quand même une assez forte mauvaise volonté de l'État belge. On a en fait, du point de vue politique, politicien, en Belgique, une très forte présence quand même de la droite dure. Du côté flamand, n'oublions pas les deux premiers partis, avec 21% des voix chacun, donc au coude à coude, sont respectivement le Vlaams Belang, qui est ouvertement anti-étranger, et la NVA, qui est nationaliste pro-flamande. Ça fait 43% qui sont totalement hostile à des politiques d'immigration un tant soit peu ouvertes. Et donc, ça fait que les ministres représentant ces factions proposent une politique extrêmement répressive. Et c'est au point que l'État belge a déjà été condamné pas moins de 7000 fois par le tribunal du travail de Bruxelles, la Belgique plus d'un millier de fois devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir proposé des hébergements corrects. Au total, 200 millions d'euros d'astreinte auxquelles est soumis l'État belge. Mais la ministre a bien affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de payer ces sommes. Donc on est en train de dériver véritablement vers un État un peu voyou qui se moque finalement des règles même que d'un certain côté il a fixées lui-même.
Des pistes de solutions, l'avenir, comme on le voit au niveau de ce droit d'asile en Suisse, en Belgique.
On a évoqué donc ce pacte au niveau européen, mais de manière générale, il faut bien avouer qu'il n'y a pas de quoi se montrer très optimiste. On sait bien qu'une politique d'asile un peu équilibrée, elle repose à la fois sur une intégration pragmatique, humaine, pas totalement ouverte, mais en évitant de charger complètement les migrants de tous les maux du monde, ce qui serait faux. Et puis, d'autre part, une action sur les causes des flux migratoires. On n'en prend pas le chemin. On constate un durcissement des opinions publiques sur les questions d'asile. Et puis, on le sait, et ça excède l'asile, une incapacité manifeste de nos sociétés à changer de paradigme économique, et notamment avec les problèmes climatiques qui, on le sait, sont un des grands facteurs de migration. Donc, il n'y a pas de quoi être extrêmement optimiste.